Chapitre 2. Elle s'était enfoncé la tête dans la poitrine de son oncle, éplorée, haletante, et lui la tenait sans trouver un mot à dire, bouleversée par la douleur et aussi frémissant d'indignation. « Ma pauvre enfant » murmurait-il, « ma pauvre enfant !» Puis, s'interrompant dans sa tendre compassion, il se laissait aller au mouvement de fureur qui le soulevait. « Le misérable !» L'horreur de la réalité dépassait ce qu'il avait osé craindre, et devant le désespoir de cet enfant, qui lui inspirait une tendresse dont pour la première fois il sentait toute l'étendue, il restait anéanti. Cependant, il fallait qu'il lui parlât, il fallait qu'elle comprît qu'elle pouvait se réfugier en lui, car si quelque chose devait la relever et la soutenir, c'était à coup sûr la certitude qu'elle ne serait pas abandonnée. Ainsi, dit-il d'un ton qu'il aurait pris pour parler à un petit enfant, ta première pensée a été de m'envoyer cette dépêche. N'êtes-vous pas tout pour moi ? Oui, mon enfant, ton cœur ne t'a pas trompé. Je suis à toi, entièrement à toi, et désormais, je veux que nous vivions comme père et fille. J'ai eu tort de penser que tu étais assez grande pour n'avoir plus besoin de moi, et ma part de responsabilité est lourde dans ce malheur. Si j'avais été ce que je devais être, si j'étais restée près de toi, je t'aurais protégée, ma présence seule eût empêché ce qui est arrivé. Tout d'abord, elle n'avait pas compris, mais peu à peu, la lumière se faisait. « Oh, mon oncle » murmura-t-elle. « L'oncle fait place au père. Oncle, je l'étais quand je t'ai donné Lady Cappadoce, et je l'étais aussi quand j'ai provoqué ton émancipation. Père, je le suis en te disant que je ne te quitterai plus jusqu'au jour, il allait dire, de ton mariage. Mais ce mot prononcé en ce moment ne pouvait qu'éveiller des douleurs et des hontes nouvelles. Il retint à temps. Que je ne te quitterai plus jusqu'au jour où tu ne voudras plus de moi. » Elle releva la tête et le regarda avec une émotion qui disait combien profondément elle était touchée. « Pour aujourd'hui, reprit-il, tu me fais préparer mon appartement ici, celui que je suis venu occuper quand tu es restée seule. »
« Qui aurait prévu alors que je pourrais être plus malheureuse un jour que je ne l'étais dans ce moment ?»
N'ayant rien à répondre à ce cri désespéré, il continua pour qu'elle fût obligée de le suivre. « Il importe que personne ne puisse remarquer que tu n'es pas dans ton état normal, et si tu étais forcée de te contraindre, si tu devais amener un sourire sur tes lèvres quand tu aurais des yeux pleins de larmes, ce serait un supplice que je veux t'épargner. » Nous partirons donc demain ou après-demain en voyage pour aller droit devant nous. Et bien entendu, nous laisserons Lady Cappadoce au château, n'emmenant que Philippe, qui est aussi incapable de voir ce qu'on ne lui montre pas que s'il était aveugle. Il s'arrêta quelques secondes, car ce qu'il avait à dire était si délicat, si difficile, qu'il ne savait comment l'aborder. Cette nuit n'avait pas fait que Ghislaine ne fût encore l'innocente et pure jeune fille qu'elle était la veille, et il fallait qu'il parlât sans que cette innocence fût effleurée. « Il se peut, continua-t-il, que nous soyons empêchés de revenir à Chambray avant plusieurs mois, un an peut-être. Sans doute il est à espérer que cette crainte ne se réalisera pas, et même les probabilités sont pour la non-réalisation. Mais il faut la prévoir. Dans ce cas, nous irions à l'étranger, quelque part où nous aurions la certitude de n'être pas connus, et nous attendrions. » Comme il sentit la main qu'il tenait dans la sienne se mouiller de sueur, il poursuivit « Si, en ce moment, je parle de cette menace, qui, je le répète, est en dehors de la probabilité, c'est pour que, dès maintenant, tu aies la certitude que, quoi qu'il arrive, ce terrible secret restera entre nous, que ce qui s'est passé cette nuit et ce qui en peut résulter ne sera connu de personne. Enfin que, pour te défendre, te sauver, compatir à ton malheur, te plaindre ou te soutenir, tu auras une affection, une tendresse paternelle. » Elle se jeta dans les bras de son oncle, mais sans trouver une parole, étouffée par les larmes. « À deux, nous serons forts, » dit-il doucement. « Et si, pendant le temps qu'il nous reste à passer ici, tu peux t'observer, j'arrangerai les choses pour que notre départ paraisse à tous la chose la plus naturelle du monde. Lady Cappadoce, c'est elle que tu m'as envoyé une dépêche ?
Je ne crois pas.
Dans le cas où elle le saurait, est-il possible que cette dépêche soit une réponse à une lettre que tu aurais reçue de moi ?
Sans doute.
Eh bien, il en sera ainsi. Notre voyage n'aura pas été arrangé aujourd'hui. Je te l'aurais proposé il y a plusieurs jours. Ce qui a son importance, tu le comprends. Aujourd'hui, je ne serai venu que pour nous entendre définitivement. C'est ainsi que tout de suite, je vais présenter les choses à Lady Capados. Toi, pendant ce temps, fais atteler une voiture qui me conduira à Paris.
Vous voulez...
Ne t'imagine pas, pauvre petite, que je veuille revenir sur ce que j'ai dit. Je suis à toi entièrement. Si je vais à Paris, c'est pour toi. Je dois voir ce misérable. Elle eut un frémissement. C'est de ton honneur qu'il s'agit, c'est de l'honneur de notre nom. Et confiance en moi. Elle releva la tête et, lui tendant la main, « Toute confiance, mon oncle !» Si tu ne veux pas rester ici, exposé aux questions de Lady Capados et à sa curiosité, viens avec moi à Paris, tu m'attendras à l'hôtel tandis que je serai chez lui, et nous rentrerons ce soir ensemble. À la veille d'un départ, il est tout naturel qu'on ait des courses à faire dans les magasins. Ce sera ton explication. Pendant que le comte annonçait son voyage à Lady Capados, si ébahie qu'on ne l'emmena point, qu'elle ne trouvait pas un mot à répondre, Ghislaine, devant une glace, se baignait le visage, tâchant d'effacer les traces de ses larmes. Quand M. de Chambray la fit appeler, elle était prête à partir. En chemin, pour la distraire, il voulut discuter leur plan de voyage. Où désirait-elle aller? Mais elle n'avait aucun désir, bien qu'elle ne fût pas plus blasée sur les voyages que sur les autres plaisirs qui lui avaient été réservés pour ses premières années de mariage. Si l'été leur interdisait l'Espagne et l'Italie, il restait les pays du Nord, la Hollande, la Norvège. Le Danemark ne la tentait pas plus que la Hollande, la Norvège que le Danemark. Pourquoi ne pas rester en France, dans un village au milieu des bois ou au bord de la mer? À quoi bon parcourir des pays plus ou moins curieux qu'elle verrait mal? Mais elle n'eut pas plus tôt fait cette réponse qu'elle en comprit l'égoïsme, et tout de suite, elle s'en excusa en priant son oncle de choisir lui-même le pays qu'il aurait plaisir à voir ou à revoir, et ce fut sur la Hollande que décidément tomba ce choix. Cette discussion eut cela de bon qu'elle occupa la route. Obligée de suivre son oncle, obligée de lui répondre, Ghislaine se calma. La honte de la confession commençait à perdre de son intensité première, en même temps que l'horreur de sa situation s'atténuait dans la tendresse qu'elle rencontrait. Certes, elle avait compté sur cette tendresse, et c'était cette confiance qui lui avait donné la force de l'appeler à son aide. Mais comment eût-elle imaginé que son oncle, dont elle connaissait les idées et les habitudes d'indépendance, allait sacrifier ses idées et ses habitudes pour se donner à elle, avec ce dévouement ? L'émotion qu'elle éprouvait à se sentir ainsi soutenue lui desserrait le cœur. En arrivant à Paris, M. de Chambray la laissa à l'hôtel. « Tâche de n'être pas trop impatiente, ma mignonne. Tu comprends que je peux ne pas le rencontrer chez lui. Peut-être faudra-t-il que je revienne à une heure où il y a chance de le trouver. » Il avait envoyé chercher une voiture de place. Il se fit conduire rue de Savoie où demeurait Nicétas. À sa demande, la concierge répondit que justement M. Nicétas était chez lui. « Au cinquième, la porte à gauche, au fond du couloir. » Ces cinq étages, le comte les monta lentement. Pour les mêmes raisons qu'il lui avait fait laisser sa canne dans son fiacre, il s'arrêtait à chaque palier. Il fallait qu'il se calmât et ne se laissât pas entraîner par la colère indignée qui le poussait. C'était de sang-froid, avec dignité, qu'il devait aborder cet entretien et le conduire à sa fin. Au dernier palier, il fit une longue pause, car malgré tout ce qu'il s'était dit et se répétait, il ne se sentait pas maître de ses nerfs. La nature, pas plus que l'éducation, n'avait fait de lui un de ces hommes apathiques qui supportent les coups du sort en tendant le dos et préparent leur joue droite quand ils ont reçu un soufflet sur la gauche. En lui donnant la taille et la carrure d'un cuirassier, les muscles d'un gymnaste, les capacités et les exigences stomacales d'un gentilhomme campagnard grand mangeur, grand buveur, grand chasseur, grand marcheur, également fort dans tous les sports, la nature ne l'avait pas prédisposé à la retenue ou à la timidité. Ordinairement, il allait droit devant lui, fièrement, crânement, la tête haute et le nez au vent, ne subissant d'autres règles que celles de sa fantaisie, d'autres lois que celles des convenances ou de sa conscience. Aussi lui en coûtait-il, dans ces circonstances, de ne pas entrer simplement chez un misérable pour lui casser les reins et lui tordre le cou comme il le méritait. ce qu'il eût fait sans le moindre scrupule si l'honneur de cette pauvre petite n'eût été en jeu. Et c'était cette lutte même contre l'impulsion de son caractère qui le rendait hésitant. Comment se contiendrait-il lorsqu'il aurait ce lâche gredin devant lui ? Une femme qui entr'ouvrit une des portes donnant sur le palier et l'examina avec la curiosité d'une commère à l'affût de ce qui se passe chez ses voisins, le décida. Sachant qu'on pouvait l'écouter, il serait plus maître de soi. Il suivit le corridor. Au bout se trouvait la porte que lui avait indiquée la concierge, la clé dans la serrure. Il frappa. On ne répondit pas. Il frappa plus fort. « Entrez !» dit la voix de Nicetta, du ton bourru d'un homme mécontent qu'on le dérange. Sous la main impatiente et nerveuse de M. de Chambray, la clé accrocha dans la serrure, mais cependant la porte s'ouvrit. Nicetta, qui était assis à une table, écrivant, tourna la tête d'un mouvement impatienté. Mais, en reconnaissant M. de Chambray, il se leva violemment. « M. de Champ !» Le comte leva sa main puissante et d'un geste énergique lui ferma la bouche si violemment que le nom fut coupé. « Ne prononcez pas de nom !» De sa main levée, il montra la porte et les quatre murs. « Personne ne doit entendre ce qui va se dire entre nous. Parlons bas !»